Vous écoutez
RMC.
Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant la fin du championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'After est là, bien sûr, une heure de foot européen. Ensuite, Julien Cazard nous rejoindra. Le 32-16 est ouvert, le hashtag RMC Live Direct Studio et les matchs. Avant de parler de Guardiola, on retourne à Rouen, Christophe Lécuyer, le dernier match de Coupe de France, donc des 32e, Rouen-Metz.
Oui, ça vient de repartir ici cette seconde période depuis 4 minutes très précisément, toujours ce score par Nabiro pour l'UFC Rouen qui avait scoré très vite dans cette partie. On le rappelle, ce but très joli d'ailleurs signé Dembi à la 6e minute, et franchement c'est logique parce que les Messins ont été incapables de réagir sur la première période. On va voir si ces Messins sont en capacité de montrer autre chose, de rendre une autre copie sur la mi-temps qui vient donc de débuter, un but à 0 ici à Diochon pour l'UFC Rouen.
Pendant ce temps en Italie, l'Inter mène toujours 2-1 à Naples après 58 minutes, et puis en Angleterre la Cup Leeds en jeu depuis 5 minutes en deuxième mi-temps et il y a toujours 0-0.
Le Canette vient de mettre un coup franc qui a frôlé la transversale, qui l'a touché.
Qui a touché même.
Ouais.
Ah, donc voilà, donc réveil d'Arsenal en l'occurrence. On vous tient informé dès que le score évolue. Julien Laurence est sur place, il va nous rejoindre dans quelques instants d'ailleurs, Julien. Alors qu'il y a une nouvelle occasion pour Arsenal avec un arrêt du gardien.
Ils sont dans le dur là, Leeds.
De Leeds. Exactement. Leeds, ils ne se sont jamais remis du match contre Jérôme Rotten avec 3. Hein. C'est bien connu.
Je leur avais mis.
Ah, juste avant de parler de Guardiola, une dernière chose. Vous le savez, c'est la rentrée, hein, évidemment. Et le Père Noël a encore des cadeaux pour vous, le Père Noël RMC, l'After, qui vous offre notamment des iPhone 11. Eh oui, on est comme ça, nous. iPhone 11 et des consoles de jeux.
Je crois qu'on a été au 10.
Eh ben non, on en est 11, mon vieux. Ah, t'as raté une étape.
C'est un beau cadeau, vu le prix du 11.
En tout cas, si vous voulez gagner l'un de ces cadeaux, vous envoyez RMC par SMS au 732-16. RMC par SMS au 732-16. Deux gagnants par jour. C'est peut-être vous. Donc, tentez votre chance. Julien Laurence nous rejoint. Salut, Julien.
Oh!
Je recommence.
Arsenal, ils sont beaucoup mieux là. Beaucoup mieux.
Voilà, sa ligne.
Julien n'est pas là. Allez, hop.
Voilà. Sa ligne a sauté. Il nous rejoint dans quelques instants.
Il n'y avait rien à dire.
Nicolas Lansalo est avec nous. Nicolas, bonsoir.
Salut, messieurs. Salut à tous.
Nicolas, qui a réalisé ce documentaire donc diffusé sur RMC Sport avant Noël, mais toujours disponible en replay. Hein,
exactement.
Pour ceux qui veulent le voir, on va en parler ce soir. Qui parle de Guardiola en Angleterre. On ne refait pas la carrière de Guardiola.
C'est ça.
Guardiola, l'anglais.
C'est quand même un peu évoqué, le passage en Allemagne.
Oui, c'est très succinctement évoqué au début, voilà. Mais ça s'appelle Guardiola, révolution anglaise. Donc en fait, on s'était posé deux questions à l'époque. C'était de savoir, est-ce que lui, il avait changé la Première Ligue, et est-ce que la Première Ligue l'avait changé? On a mis un point d'interrogation au titre parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu plus gris, un peu plus subtil que ça. Et voilà, donc on a vraiment fouillé en profondeur ces trois saisons et demie maintenant en Première Ligue.
Là où vous évoquez.
Alors attends, on va aussi en parler avec Julien Laurence parce que Julien connaît bien le dossier évidemment. Il est d'ailleurs dans le doc. Hein. Julien qui nous rejoint. Salut Julien.
Brillant.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut Julien.
Alors vas-y Daniel.
Là où évoquer le passage en Allemagne, c'est parce que. On va prendre tout simplement la chronologie des événements parce que je trouve ce qui est vachement intéressant dans le doc, c'est que on a cru qu'il allait venir en Angleterre avant qu'il aille en Allemagne.
Exactement.
Notamment quand à Manchester City arrive l'équipe espagnole emmenée par Chiqui Begiristain.
C'est ça.
On se dit que c'est à ce moment-là que Guardiola va aller en Première Ligue. Et puis il y va pas, il va au Bayern. Et on peut commencer l'histoire là. Est-ce qu'on sait pourquoi il n'y va pas plus tôt finalement et qu'il préfère passer par l'Allemagne? Et ensuite pourquoi il se décide enfin à aller en Angleterre?
Ce qui est sûr, c'est qu'il voulait que toutes les conditions soient réunies pour qu'il ait les pleins pouvoirs. Il voulait aussi que le club peut-être soit plus développé que Manchester City. On rappelle City, ils ont été rachetés en 2008. En 2012, ils nomment l'équipe espagnole qui vient du Barça, Soriano et Begiristain. Begiristain qui est le directeur sportif, le patron, qu'on a eu en longue interview dans le doc. Mais donc en 2013, au moment où ils essaient de le signer, City est encore en développement. Ils ont été champions deux fois, mais c'est un club qui se structure toujours. Alors que donc,
mais qu'est-ce qui lui convient pas? Parce qu'ils sont quand même déjà champions, comme tu l'as dit deux fois et tout.
On n'a pas vraiment la réponse à ça. Je te dis, je pense qu'il veut se donner du temps. Faut pas sous-estimer l'attrait qu'il portait aussi à l'Allemagne. Voilà, mais c'est vraiment tout simplement une question de timing pour lui.
Mais on sentait que c'était inévitable, quoi. À un moment, ouais, il fallait qu'il arrive en première ligue et City, c'était un peu écrit parce qu'il avait les mecs qui l'attendaient et depuis.
Ils lui ont déroulé le tapis rouge et puis vraiment, c'était lui et pas un autre. C'est-à-dire qu'en attendant, comme ils l'ont pas eu, ils ont pris Pellegrini qui pratiquait un style de football porté vers l'avant avec la possession, le pressing.
Oh, but d'Arsenal.
Arsenal a marqué.
Ouais, voilà. But d'Arsenal à l'instant face à Leeds, donc 1-0 pour les Gunners. D'après un peu plus de 5 minutes en deuxième mi-temps.
C'est un peu le Guardiolico, ça, parce que c'est le maître Bielsa face à l'élève Arteta.
Oui. Arteta est un élève de Guardiola qui, lui, est un élève de Bielsa. Exactement. Donc, en fait, c'est le petit-fils, là.
C'est ça, c'est le petit-fils. Mais
qui est le maître de Bielsa, en fait, dans cette histoire?
Parce qu'il y en a un.
Bielsa, il aime bien Van Gaal. Il parle souvent de Van Gaal, mais de là.
Ah, voilà, on revient toujours aux Pays-Bas, mon petit Kevin.
D'ailleurs, le hors-série de SoFoot, il est magique, mais bon,
il est exceptionnel.
Ouais. Comme tout souvent.
Ah oui, il y a un hors-série de SoFoot sur les Pays-Bas. J'ai pensé à Kevin, je me suis dit, ah, je pense que t'as tout lu là.
Ouais, j'ai tout lu et c'était vraiment c'était bien. Magnifique, franchement. On a appris beaucoup de choses.
Ouais, c'était beau.
Bon, revenons à son arrivée donc en Angleterre. Et là, Julien, puis vous allez intervenir tous les deux. Alors, moi, ce que j'ai trouvé fort dans le doc, c'est qu'on n'a pas compris forcément de France. Nous, Guardiola qui signe quelque part. Bah, c'est un événement, c'est le meilleur entraîneur du monde, machin. Mmh. Sauf que là-bas, les Anglais, bon, sur deux, le football, c'est à eux, la Première Ligue a besoin de personne, même s'ils vont tous là-bas, parce qu'ils ont tous envie d'aller là-bas. Mmh. Guardiola, c'est pas tapis rouge non plus, quoi.
Ouais, c'est ça, City lui déroule le tapis rouge, mais pas du tout la Première Ligue. Il y a quand même un enthousiasme assez général, mais il y a beaucoup de scepticisme. Ici, on est en Angleterre, ici, on joue physique. Ouais. T'es bien gentil, Pep, mais ton jeu à repartir de derrière, ici, tu vas galérer, ça va pas être simple. Et la première saison, elle leur donne raison, puisque c'est la première saison blanche de sa carrière. Il commence super fort avec 10 victoires, toutes compétitions confondues. Mmh. Et après, c'est plus compliqué.
Et ils sortent les couteaux quand même. Il se fait tailler. Il y a des consultants qui sont assez.
Ouais.
Il met du temps à mettre tout le monde dans sa poche quand
même. Alors raconte, parce que vous avez vu Beguristan qui raconte les débuts.
Ouais, il raconte les débuts. Il raconte l'arrivée de Guardiola, les succès immédiats et le jeu qui est quand même. Il y a tout de suite sa patte, hein, Pep. Tu reconnais tout de suite son équipe. Mais il est vite dans le dur et Beguristan le soutient de manière inconditionnelle, évidemment. C'est ce qui m'explique. On a eu Damien Comolli aussi qui est beaucoup passé par la Première Ligue et qui nous disait que Beguristan n'allait pas prendre Guardiola pour lui demander de jouer long après une défaite à Everton. Parce qu'ils prennent quand même deux raclées au cœur de l'hiver, 4-0 à Everton et puis un autre 4-1. Donc c'est dur. Guardiola est dans le dur et il se plaint beaucoup. Il y a vraiment, comment dire, un choc des cultures.
C'est très intéressant dans le doc de voir ses conférences de presse où tu vois, il a toujours ses mimiques là où il se gratte la tête, tu vois qu'il est stressé et il parle sans vraiment parler en disant ouais, il faut que je m'adapte. En gros, il dit comme ça, il parle comme ça exactement. Faut que je m'adapte.
Et vous allez changer, vous allez changer quelque football. Chose.
Moi, je vais jamais changer,
et
mais
il fait des blancs et puis il fait. Non, absolument rien.
Non, mais pas changé. Tu sais comment il dit, faut que je m'adapte, mais bon, vous jouez pas le même football que moi. Moi, je joue le vrai football. Bon, en fait, le vrai football, c'est vous, mais bon, il y a moi aussi. Tu sais, il dit sans dire que, en gros, lui, il a la solution, mais il a pas encore toutes les clés, mais ça va venir.
Alors, il y a un événement. Franchement, et quand je dis parfois que quand on n'est pas dans le pays, on mesure pas forcément. Et ça, je veux que Julien nous raconte ça. Moi, j'avais pas mesuré à quel point ça avait choqué l'Angleterre quand il écarte Joe Hart.
Ouais, tu veux regardez. Lancer Julien là-dessus? Il est avec nous, je sais pas si...
Il est là.
Il est là, Julien, ça y est?
Oui, il est là. On l'a accueilli tout à l'heure, vous lui avez tous dit bonsoir.
Et tout, parce que c'est la première grande décision de Guardiola. C'est pour ton jeu, il faut un gardien qui joue haut et qui soit bon au pied. Et il sort Joe Hart. Et Joe Hart, c'est le gardien de l'équipe d'Angleterre. Et là, les mecs, ils le vivent.
C'est le mauvais gardien de l'équipe d'Angleterre.
Non, mais ils le vivent comme une humiliation, les Anglais. Il dit, mais qui est ce mec qui ose faire ça?
Julien.
C'est ça, effectivement. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Hein. C'est le premier chapitre un petit peu dans cette petite guéguerre qu'on essaie d'expliquer, enfin que Nico, Nico essaie d'expliquer très bien dans le doc, c'est qu'il arrive, il est loin d'être en territoire conquis déjà, parce que les Anglais, étant Anglais, ils ont ça dans leur culture, celle d'être cette île un peu différente de tout le monde, et qu'ils n'allaient jamais accepter que Guardiola arrive en leur disant je vais vous montrer comment on joue au football, parce que le football, c'est moi. L'histoire de Joe Hart, finalement, elle prend son essence là-dedans, dans le sens où il arrive lui, et d'un seul coup, le seul joueur qui sort vraiment de l'équipe qui était là avant, hormis les recrues, c'est Joe Hart, en disant, mais voilà, c'est quoi ce gardien? C'est un gardien qui sait pas jouer au foot. Moi, je peux pas avoir un gardien qui sait pas jouer au foot. Je vais aller vous chercher un obscur Claudio Bravo au Barça qui était même pas titulaire, mais c'est mieux que votre Joe Hart national. Ouais. Et c'est vrai que c'est là où la fracture commence un petit peu à exister.
Ça passe par un gardien. Tu te dis, bon, ben Guardiola, t'attends que ça change, mais que ça démarre par un gardien. on mesure pas en fait l'impact que ça a, quoi. Si...
Et tu vois, on a beaucoup sondé les, on a eu pas mal d'intervenants, des coachs très anglais, genre Alan Pardew qui nous a parlé longuement, Ian Wright qui est consultant, qui est très bon.
Alan Pardew, franchement. Non mais pour... quel mauvais coach.
Non mais ça après je te laisse ça, mais ouais. Si tu veux, en tout cas c'est un coach typique de la base.
C'est ça. C'est ça. J'ai bien compris que c'est pour ça que vous aviez fait appel à lui.
Alors, non, mais il dit quoi, Pardew, justement? Il dit Guardiola est une chaîne, il comprend rien au foot ou il
non,
dit
non, non, pas du tout. Non, non, mais non, ce qui est intéressant, ce qu'il dit, la principale révolution dans le jeu, c'est pas de repartir de derrière, parce que ça, il y avait déjà eu Wenger, il y avait déjà eu des coachs étrangers, c'est les gardiens. Alors, la première saison, il met bravo, mais bravo, ouais, c'est une passoire avec ses mains, et donc ça se passe très mal.
Ça fait marrer les Anglais, il dit bah oui, il y a même un commentaire, vous passez le commentaire d'un match de foot où le commentateur fait ouais, bah c'est bien de mettre un gardien qui sait jouer avec les pieds, mais un gardien qui sait jouer avec les mains.
Les mains, donc les mecs jubilent de voir Guardiola se planter en essayant d'installer ses idées, mais l'année d'après, il prend Ederson, et là, il se loupe pas, parce qu'Ederson joue au pied incroyable, court comme long. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'Ederson, il réinvente le jeu long aussi, au pays du kick and rush. Oui. Donc là, Guardiola, il prend sa revanche, puis c'est la deuxième saison, et là, il fait les 100 points, il cartonne tout, et voilà.
En fait, il y a une révolution, notamment du jeu au pied, forcément, du gardien, parce qu'aujourd'hui, si on regarde les jeunes gardiens anglais, ils ont aujourd'hui tous hérités un peu de cette révolution Guardiola. Parce que si tu regardes le gardien d'Everton, qui est titulaire en équipe nationale, Julien, rappelle-moi son nom.
Pickford,
ouais. Jordan Pickford, il a quand même un très bon jeu au pied, court et long aussi. Et en fait, avec ce jeu long, où au final les Anglais se sont aussi adaptés puisqu'ils pressaient très haut. Lui, il a révolutionné une nouvelle fois en trouvant une nouvelle arme avec cette fameuse passe directe de Ederson pour Aguero qui part dans le dos de la défense après un 6 mètres et qui va marquer un but. Donc il arrive toujours à se réinventer et c'est ça qui est très impressionnant avec lui.
Bah, il a peut-être fait une sorte de syncrétisme entre le jeu anglais et son style à lui.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est là, tu vois, on est dans le thème. C'est ce qu'il a changé. Ça a changé ça chez lui. Ça l'a fait progresser. Toi, il le dit hein, souvent en conf qu'il a appris de l'Angleterre.
Alors, toi, Julien, en tant que
j'aimerais savoir que Jérôme, parce que Jérôme a quand même, il va régulièrement en Angleterre pour
commenter un paquet
commenter les matchs de Premier League et il voit City.
C'est un événement à chaque fois que City joue. Pour savoir ce qu'ils vont faire, la façon dont ils vont provoquer l'adversaire. En fait, parce que l'adversaire ne fait que réagir toujours à City.
Oui, parce que t'es obligé de réagir à City parce qu'il est capable de changer trois fois de tactique dans une mi-temps et en l'espace de 10 minutes. Donc c'est ça qui est incroyable. Et même quand tu commentes un match où il faut être vigilant, surtout nous les consultants par rapport aux journalistes, savoir quel joueur, ce que t'attends d'un joueur à un poste, et puis à l'arrivée tu regardes et tu te dis mais merde, mais il fait pas ça, mais en fait il a changé de poste. Donc je me souviens au tout début là, de Mendy là, quand il arrive là-bas il joue au départ défense à 5, il joue couloir gauche, après il joue à 4 derrière, donc latéral gauche, et d'un seul coup il se retrouve dans le milieu de terrain,
les latéraux à l'intérieur,
exactement, hein, c'est le grand truc, donc toi quand tu commandes faut s'habituer aussi, et c'est pour ça que oui, alors je dis pas qu'il a inventé le football parce qu'il y en a d'autres avant lui qui ont montré
il réinvente un style aussi.
Et puis lui, il se réinvente aussi, mais est-ce que la question, c'est savoir, c'est est-ce qu'il s'est réinventé parce qu'il est en Angleterre et il fallait le faire, ou parce que le football veut ça aujourd'hui, et que s'il avait été au Bayern ou s'il a été ou il était resté à Barcelone, peut-être qu'il aurait eu des équipes qui lui auraient posé d'autres problèmes et il aurait été obligé de se réinventer.
Moi, il y a un truc qui me dérange un peu quand on parle de ces écoles de foot, c'est les mecs totalement dogmatiques. Et c'est, moi, c'est ça. J'ai rien contre Bielsa du tout. Moi, j'apprécie Bielsa. On a fait 1000 émissions. Mais moi, j'ai du mal avec un gars qui arrive et qui dit, moi, je vais mourir avec mes idées. Il y a rien de plus con pour moi que ça. Tu as des idées très bien, tu les défends. Ouais. Ouais. Mais tu as le droit aussi d'être intelligent et sur des circonstances particulières de match, de championnat, donc telle spécificité, de t'adapter. Donc, en gros, ce que vous décrivez là, c'est ça. C'est que Guardiola, il est venu avec ses idées. Clair, mais il a eu l'intelligence aussi de se dire attends, là je suis pas au Barça.
Non, mais parce qu'il veut gagner.
Gagner les seconds ballons, par exemple. C'est dit dans
l'histoire des seconds ballons.
Il faisait une fixette. C'est la première saison, ils se font rentrer dedans physiquement, c'est très dur.
Et à chaque fois, il en parlait dans ses conférences.
Il dit les second balls, il faut que je m'habitue parce qu'ici, le ballon, il est en l'air plus souvent.
Quand il le dit, il a un peu de mépris. Ici, le ballon, il est souvent en l'air. Il dit ça avec un air de. Qu'est-ce que c'est que ce foot, quoi. Ah ouais, c'est drôle cette scène.
Mais en fait, il s'adapte balançant.
Alors, Nicolas et Julien, ensuite.
Je termine juste. Il s'adapte non pas en balançant, mais au contraire, en pressant encore plus pour que justement les seconds ballons, les ballons aériens auxquels son équipe doit faire face, ce soit des choses subies. que l'adversaire doit dégager à cause de son pressing. Ouais. Et du coup, là, il récupère les seconds ballons. Tu vois le truc? C'est encore une fois, il s'est adapté, mais en gardant ses schémas.
Julien.
Non, juste pour mesurer un peu son évolution, justement, parce que comme on le dit, il a dû s'adapter, même sans vraiment changer foncièrement sa façon de voir le football, mais tu le vois dans le document, d'ailleurs Nico en parle sur les tacles. La première saison, il y a un gros débat en Angleterre sur le fait que City a du mal parce que City ne fait jamais de tacles, ses joueurs ne font jamais de tacles, et on pose la question à Guardiola, je me rappelle, j'étais là, et la question, et lui il dit mais pourquoi vous voulez que mes joueurs fassent des tacles, mais c'est pas jouer au foot de faire des tacles. Et les Anglais lui disent mais tu gagneras jamais rien ici si tes joueurs ils font pas de tacle. Et lui en fait il nous répond en disant mais vous verrez que je vais gagner ici et puis je vais gagner à ma manière et sans faire de tacle. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu prends le match contre Arsenal par exemple il y a 15 jours, là où ils gagnent 3-0, où c'est le récital de Bruyne, où collectivement ils sont contre une équipe d'Arsenal en crise, mais ils sont quand même exceptionnels collectivement, ils font 24 fautes. Dans une rencontre où ils gagnent 3-0, où ils ont le ballon 65% du temps, ils font quand même 24 fautes. Et là où Pep a changé, c'est que maintenant, il a des joueurs vicieux qui sont capables de faire des fautes à 50 mètres de leur but, tirer un maillot, faire un petit croche-pied par derrière, où tu prends pas de carton.
Ouais, Fernandinho.
Exactement. Et Fernandinho en est le meilleur exemple. Et si cette saison, City a autant de mal par rapport à Liverpool notamment, c'est que Fernandinho a dû jouer dans une autre position que la sienne. Ouais. Et il leur manque énormément dans ce poste de numéro 6. Mais c'est là où il a un peu évolué, Guardiola, c'est que maintenant, il a aussi une équipe qui est un peu une équipe de bâtards, qui sait qu'il y a un peu de vice, alors qu'avant c'était une équipe qui jouait, qui quand il est arrivé il voulait absolument que du beau jeu et c'est tout. Il a su s'adapter à la perte du ballon et quand ils n'avaient pas le ballon à être un petit peu plus vicieux que les équipes.
Attends, s'il te plaît, j'aimerais justement, pour rebondir sur ce que dit Julien, ouais, que Nicolas nous raconte ce qui s'est passé dans une petite équipe Rochdale je crois à côté de City, qui est assez symptomatique aussi de ce que Guardiola lui a emmené aux autres équipes anglaises.
Ouais, c'est une histoire assez marrante en fait. Simplement tombé là-dessus sur les réseaux sociaux au mois d'août. Il y a un but qui a été marqué par cette équipe de Rochdale qui joue en Ligue 1, donc c'est la D3. Et c'est un but, mais magnifique. Franchement, tu changes les maillots, c'est City. Ouais, ouais. Par de derrière, ils font une trentaine de passes. Et le but sur les réseaux, bah, forcément, il a beaucoup fait parler parce qu'un mec l'a repris en disant si ça, c'est pas une preuve de l'influence de Guardiola sur le foot anglais. Donc, on est allé à Rochdale. J'ai discuté avec ces mecs-là, avec le coach, avec le buteur, capitaine. Et en fait, eux nous expliquent que oui, effectivement, ils regardent beaucoup ce que fait Guardiola. Ça les influence. Ça leur donne envie de jouer comme ça. Puis je disais même au buteur, toi, tu dois prendre plus de plaisir parce que tu arrêtes de voir les ballons passer au-dessus.
Bien sûr.
Et ils s'éclatent. Après, pour être tout à fait honnête, ils m'ont aussi dit que ça datait pas de Pep. Ça a confirmé cette tendance, mais c'est ce qu'on se disait. Il y a eu Wenger, il y a eu des coachs étrangers.
Ouais, cette tendance, elle vient quand même beaucoup du Barça de Guardiola à la base.
Exactement. En fait, il avait aussi influencé à distance, bah, comme il a influencé de façon tout le foot européen. L'Angleterre avait déjà commencé à changer par lui. Mais
c'est vrai qu'en Première Ligue, souvent, dans le sens la Première Ligue, même si souvent aussi sur les réseaux sociaux, on nous dit « Ah bah tel match, ça n'a pas été non plus, vous critiquez la Ligue 1 ».
C'est incroyable, les crevards, ils tombent sur un pauvre match anglais.
Je laisse Daniel mettre ses propos.
Si c'était la Ligue 1, mais ferme ta gueule, putain, mais regarde la...
Dis donc, tu es poli un peu, toi.
Non, je suis pas poli avec les cons.
Il y a tu peux dire punaise déjà.
Ouais, mais même ce soir, un match de cup, le Arsenal Leeds là qu'on est en train de voir. Mais mets-toi devant la télé, profite, tais-toi et profite.
Ça c'est Daniel. Ça c'est Daniel. Il s'énerve sur rien. Sur on ne sait pas qui.
Il m'a pas laissé finir. J'allais juste dire que souvent, il y a aussi des purges, on le dit, mais souvent, tu regardes un Norwich, allez, je vais dire Everton. Il y a quand même déjà beaucoup d'internationaux sur le terrain, mais ça vient aussi du budget forcément et des salaires. Mais quand même, au niveau de la qualité de jeu, des intentions, par exemple, de Norwich, qui est un coach allemand, c'est même pas espagnol. Ouais. Mais il y a beaucoup d'Allemands dans l'équipe, dans l'effectif aussi. Mmh. Mais franchement, l'intensité, ils repartent de derrière. Bah, ils ont donné une leçon à City d'ailleurs cette saison. Ouais. Et franchement, bon, ils gagnent pas tous les matchs.
Après, l'argument ultime, c'est dans les tribunes, c'est calme. Et chez nous, ça fait du bruit. D'abord, je sais pas chez nous où ça fait du bruit. Mais les mecs, moi, je leur conseille, regardez le championnat de Turquie. Là, il y a des grosses ambiances.
Via Strasbourg, hein. Il y a plus d'ambiance qu'à Fenerbahçe.
Les mecs, quand ils savent plus quoi dire, les arguments, c'est ça.
Un
autre épisode.
Attends, me faire cuisiner, hein, c'est top. Mm.
Ah non, mais je te pose la question, Julien et toi. Guardiola, il y a quand même un truc, c'est qu'il bénéficie aussi de joueurs exceptionnels. Et ça participe quand même au succès. On peut pas le nier.
Mais il est fait progresser.
Mais attends, si tu regardes City, je suis désolé, regarde l'équipe de City. Quand Bernardo Silva y va, c'est pas une star planétaire. Tu regardes leurs défenseurs, franchement, leur défense,
c'est un peu de sa faute.
Ouais, sur les choix des défenseurs. Non,
t'as vu le budget qu'il a mis sur les défenseurs.
Oui, bien sûr.
Ouais, mais c'est difficile. Il leur demande tellement de choses à ses défenseurs.
En qualité de joueur, en Angleterre, t'as du gratin partout, en Angleterre.
Moi, je trouve quand même que, comme dit Gilbert, vrai qu'il a des bons joueurs.
Mais il a bien joué quand même, les bons joueurs. Excusez-moi.
Si on connaît bien Guardiola, déjà, Guardiola ne veut pas des meilleurs joueurs. Parce que les meilleurs joueurs, ils ont un gros ego, ils ont une grosse personnalité, et ça l'intéresse moins.
Non, mais lui, il a développé un truc différent, c'est que les mecs, ils savent qu'ils viennent parce qu'il y a Guardiola,
Il est fait beaucoup mieux jouer, et tous progressent.
Je vais lui dire, c'est-à-dire, parce que Jérôme me regarde d'un air dédaigneux en me disant, c'est-à-dire. C'est-à-dire que, je te le dis, Guardiola, avant de prendre un joueur, il regarde aussi sa personnalité, et donc je te le dis, parmi les meilleurs, même si Daniel ne sera pas content, il n'a pas pu travailler avec Zlatan, il a eu des difficultés à travailler avec Eto'o, il a eu
ça, c'est des exceptions.
Mais non, c'est pas des exceptions.
Müller, tu me dis Bayern.
Müller, Bayern. Non, mais il y a toujours
un joueur. Il a fait attention à ça, mais comme tout,
il fait attention à ça. Il a le droit.
Gabriel Jesus, qui sont en concurrence. Tu crois que
il étudie les caractères.
Il a étudié les caractères beaucoup plus que certains.
Il avait des problèmes et d'ailleurs bien il en a pris de foot dehors. Il a gagné sans lui. Toutes les équipes que Zlatan quittait ont vraiment gagné.
J'ai dit juste qu'il aime bien. Il aime bien les grands joueurs.
Mais il a quand même été champion d'Europe.
Mais il fait progresser aussi les joueurs moyens et c'est là où il est très fort.
Bien sûr.
Les joueurs moyens, mais quel joueur est moyen.
Là, un moyen au niveau de
rejoint Gilbert. Ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même un effectif. Il a eu les moyens.
Fabien Delph. Bah aujourd'hui, tu le vois, Everton, c'est un autre joueur qu'avant d'être passé dans les mains de Guardiola. Je suis désolé, il l'a fait devenir largement meilleur joueur.
Excuse-moi, mais Delph, tu diras jamais, c'est un grand joueur, Delph. On est d'accord.
Mais c'est un meilleur joueur qu'avant Guardiola, et ça, c'est déjà intéressant.
Avec lui.
Si je peux tenter une synthèse, il fait progresser tous ces joueurs, ça, c'est incontestable.
Ça, c'est tous les
et en revanche, sur la gestion des superstars, on a quand même l'impression que, tu sais, comme il a eu cette feuille blanche à City dont on parlait, c'est un peu sa partie de football manager ultime à lui. On lui a donné les clés, il a fait ce qu'il voulait. Et on n'a quand même pas eu la sensation qu'il voulait, je te dis n'importe quoi, faire venir Messi, quoi qu'il y a eu des bruits là-dessus.
Ouais, exactement.
Mais, je suis pas certain qu'il avait, pour rejoindre quand même un petit peu Kevin, l'envie d'avoir des superstars avec un melon très développé, mais plutôt de se façonner une petite équipe
à
lui.
Mais Klopp est pareil. Klopp fait progresser ses joueurs énormément. On l'a dit mille fois avec Liverpool. Et lui aussi, ses joueurs, il les a. Il arrive à contrôler les égos. Et les mecs qui sont arrivés quand ils sont arrivés à Liverpool n'étaient pas des stars planétaires. Il a pas fait un Cristiano Ronaldo. Je te prends à 250 millions ou un Neymar.
Il a pas fait ça. Il peut pas en avoir 10.
On a Firas qui est là. Et Firas a vu le doc. Salut Firas.
Ouais. Allô, bonsoir.
Ça va?
Salut.
Oh, salut à tous. Bonne année à tous, d'ailleurs, à tous ces petits mecs.
Écoute, pareil à toi, pareil pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit que tu veux rajouter là sur Guardiola?
Non, moi, j'ai revu le doc, moi, je l'ai vu deux fois parce que je suis un passionné de Guardiola et en fait de Bielsa et de Guardiola par conséquent. J'aimerais en fait revenir aussi sur son passage en Allemagne, qui est vu comme beaucoup comme un passage un peu entre guillemets, je mets des grosses guillemets, raté, parce qu'il a échoué toujours à la dernière marche, à l'avant-dernière marche en demi-finale de Ligue des Champions. Par contre, il a marché sur la Bundesliga, il a révolutionné le jeu de la sélection allemande. C'est sincèrement, pour moi, c'est un des seuls coachs au monde qui arrive dans un championnat et qui fait évoluer l'équipe nationale de ce championnat-là. En ayant repositionné des mecs comme Philippe Lahm, en ayant mis en place un jeu beaucoup plus basé sur la possession et sur la récupération très 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 rapide après la perte du ballon. Ça, c'est sympa depuis ses débuts à Barcelone. Et c'est vrai que ça a pas mal influencé le football allemand, qui était plus un football, je vais pas dire un peu plus direct, mais un peu plus primitif. Où les défenses étaient
ouais, aux abois. T'as la chance que Polo soit pas là, toi. Je crois qu'il n'aurait pas aimé l'adjectif.
Non, mais c'est pas primitif dans le sens où.
On a compris, t'inquiète.
D'accord. Bon, j'ai pas envie d'avoir Polo sur le dos. Mais voilà, c'est là où je voulais en venir, en fait, où Guardiola récemment a dit que depuis son sextuplé avec le Barça, de toute manière, tant qu'il gagne la Ligue des Champions, ces saisons seront vues comme des échecs à chaque fois qu'il avait l'habitude de ses critiques, parce qu'on est extrêmement exigeant avec cet entraîneur-là,
qui est pour moi le
meilleur entraîneur au monde. Si on le compare un peu à un mec comme Klopp aujourd'hui qui passe devant lui au classement et en termes de cote de popularité auprès des jeunes supporters, c'est que Guardiola, c'est un peu de la danse classique, c'est un ballet et Klopp, c'est un peu du rock'n'roll.
Mais c'est d'ailleurs ce que dit Klopp. Tu sais bien ce que tu dis, parce que Klopp se définit comme ça aussi.
Bah, c'est après, c'est en
fond. Et René Girard, c'est du hard rock alors.
Ouais, du hard rock.
Du hard rock. Du punk alternatif.
Du métal.
D'ailleurs, Claude dit
plus du métal.
Ouais. D'ailleurs, Claude dit qu'il est hard rock.
C'est vraiment d'un groupe pas connu alors. Parce que.
Non, mais bon, vraiment, pour faire Gérard, c'est de la musette.
Non, mais on rigole. Sur raison, on ne peut pas te voir de là.
Nous, comme René, il va encore dire qu'on s'acharne sur lui. On l'invite toujours. Firas, bravo. En tout cas, tu nous as fait, du coup, tu nous as fait en 30 secondes le Guardiola allemand, toi.
Je viens de le voir à l'écran, donc j'y pense sur les joueurs progressés, mais Sterling.
On est d'accord.
C'est extraordinaire. C'est dingue ce qu'il a fait de Sterling.
On conclut avec Julien. Julien.
On conclut. J'avais d'autres questions. On doit conclure là.
Il y a le drôle de l'âme qui arrive. Maintenant, on continue un petit peu.
Non, c'est une dernière question. C'était sur le.
On fait une pause et on continue derrière. Okay. Avec Julien et avec Nicolas et avec les drôles de l'âme. Juste Christophe, le score entre Rouen et Metz, rapidos.
Il reste 17 minutes à jouer ici à Rouen. Les Rouennais mènent toujours 1-0 face aux Messins. Ils étaient même prêts tout à l'heure de doubler le score. Les Normands, pour l'instant, tout va bien. L'exploit est en marche.
Pour l'instant, là, l'Inter mène 3 à Naples à 8 minutes de la fin. Et toujours 1-0 pour Arsenal face à Leeds après 74 minutes. À tout de suite dans la...
Oh
la
quête.
RMC jusqu'à minuit.
L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Avec Jérôme Bretagne, Kevin Diaz, Daniel Riolo, avec Julien Laurence, avec Nicolas Lansalo pour le doc, donc Guardiola qui est passé sur RMC Sport et qui est toujours disponible en replay. Rappelez-nous le titre original.
Évolution anglaise, avec un point d'interrogation.
Exactement, toujours dispo. Un but à Rouen, Christophe Lécuyer, Rouen-Metz.
Et le deuxième but pour les Rouennais, messieurs, le score semble scellé, en tout cas il reste 12 minutes à jouer ici, ça fait 2-0 pour le FC Rouen. C'est une action d'école encore une fois qu'ils ont effectuée. Là, les joueurs de David Gickel, ils sont partis de leur moitié de terrain. Le contre parfaitement amené par Valentin Sanson, le ballon sur le côté droit et le centre qui est parfaitement repris par Fataki qui était entré en jeu dans le courant de la seconde période. Ça fait 2-0 pour le FC Rouen face au FC Metz. Il reste un petit peu moins de 12 minutes à jouer ici à Diochon dans le temps réglementaire.
À tout à l'heure, Arsenal mène toujours 1-0 face à Leeds à 10 minutes de la fin et l'Inter mène toujours 3-1 à Naples à 3 minutes de la fin. Trois dernières questions à Julien et Nicolas pour conclure sur Guardiola. Remercions Firas tout à l'heure, bien sûr. Daniel, tu avais une question.
Oui, toujours rapport à sa découverte d'un football différent. On parlait tout à l'heure des ballons en l'air. Il y avait la dimension contact physique. Mm-hmm. Et il y a cette scène où, parce que quand il s'énerve un peu bizarrement, quoi. Il s'énerve pas vraiment franchement. Où il se plaint d'une faute sur le gardien, qui a un événement qui fait basculer le score en sa défaveur, et où il n'arrête pas de répéter partout ailleurs dans le monde, c'est un coup franc. Mm. Partout ailleurs dans le monde, c'est un coup franc. Il doit répéter la phrase, je sais pas combien de fois. Il est comme un dingue.
C'est ce que je t'ai dit.
J'ai envie de lui dire, mais pète un câble et énerve-toi vraiment parce que la façon dont tu le fais. Et ça, cette dimension-là, genre le contact physique sur le gardien, sur les joueurs et tout, ça aussi, il a fallu qu'il s'y fasse.
Ouais, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'était une scène mythique qui a beaucoup tourné en Angleterre. C'est sa première saison où il y a Bravo qui se fait shooter sur un ballon qu'il essaie de capter à la main. L'attaquant arrive et le bouscule et marque. City gagne quand même le match, hein, mais lui, ça le rend dingue. Et il s'est adapté à la dimension physique, mais moi, je veux juste quand même.
Le mec lui dit, mais vous avez quand même gagné. Oui, mais partout dans le monde, il y a faute.
Ouais. Il pète un plomb, il fait une tirade magique. On l'a laissé en entier d'ailleurs dans le. Ouais. Et on a retrouvé le journaliste qui avait fait l'interview, qui était un peu choqué sur le coup, mais il dit que Guardiola est venu s'excuser après. Mais il faut quand même juste le rendre hommage à Pep, parce qu'on a beaucoup parlé d'adaptation et tout ça. Mais quand même, deuxième saison, 100 points, champion, avec un jeu à la Pep magnifique. Troisième saison, triplé, deux coupes nationales, champion, avec 98 points, avec un Liverpool derrière qui cartonnait. Donc son pari, il l'a réussi. Après, il faudra voir, maintenant, cette saison, ce sera Liverpool, il faudra voir la Ligue des Champions. Mais son pari, il l'a réussi en Angleterre.
Pour conclure, Julien,
une question pour toi,
est-ce qu'il va rester ou pas?
Ouais, il l'a dit encore cette saison. Normalement, oui, il a re-signé. Et ça aussi, c'est un nouveau truc. Tu vois, il a jamais fait plus de 4 ans. Il a fait 4 ans au Barça, 3 ans au Bayern. Il avait re-signé dès sa deuxième saison là, à City. Il a encore re-signé. Donc normalement, il fait encore la saison prochaine. Normalement.
Julien,
c'était pas ça aussi.
Non, moi j'en ai une. Alors, encore deux questions à Julien. Alors, que disent les grands observateurs, les consultants un peu stars, les Lineker et compagnie aujourd'hui de Guardiola en Angleterre?
Alors il y a énormément de respect forcément sur le fait, comme on l'a dit, hein, qu'il est quand même venu ici et qu'il leur a montré qu'il était capable de gagner avec son football à lui. Le problème pour Guardiola est dans l'héritage qu'il laissera au football anglais et l'image qu'il laissera et tout ça. Un, c'est les échecs en Ligue des Champions et c'est pas simplement des échecs, surtout celui de il y a deux ans contre Liverpool où ils sont largement dominés sur les deux matchs en quart de finale par le Liverpool de Klopp. La saison dernière contre Tottenham, c'est un petit peu différent. intéressant parce qu'il y a, il y a cet incroyable match retour dont tout le monde se souviendra pour toujours, où tu peux dire qu'il est un petit peu mal, il est un peu malheureux, mais c'est vrai que le fait d'avoir échoué en Ligue des Champions, ça restera quand même un point noir pour lui dans sa carrière à City, sauf s'il la gagne à un moment. Et puis après, il y a surtout l'émergence de Liverpool et de Klopp qui va lui faire très mal parce que aujourd'hui, on parle déjà quasiment plus de Guardiola et beaucoup plus de Klopp. Et finalement, bah, cette idylle avec Guardiola, elle aura duré deux saisons. Donc là, c'est celle à 100 points et celle à 98, comme Nico vient de dire. Mais on est déjà passé à autre chose chez les Anglais. Et les Anglais, c'est comme ça pour eux et c'est comme ça dans tout. Ils passent très vite à autre chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est le Klopp loving, c'est le Klopp ceci, Klopp cela, Klopp est fabuleux, Klopp est machin. Et Guardiola, bah, il a déjà perdu 5 fois. 5 défaites en 19 matchs de championnat, ça fait beaucoup. Et on a presque oublié un petit peu tout ce qu'il a fait par le passé.
Ouais, mais le temps lui rendra justice, tu verras. Ouais. Franchement, c'est deux saisons folles qu'il a fait avec la qualité de jeu produite. Ouais. Dans quelques années, quand on se retournera là-dessus, les Anglais, ouais, surtout les Anglais et leur championnat, leur championnat.
Les Anglais après se souviennent, par exemple comme aujourd'hui, peut-être qu'un an après, on avait oublié les Invincibles et puis aujourd'hui, c'est resté gravé dans l'histoire. Ouais, la période folle d'Arsenal, et ce sera la même chose. Les Anglais qui aiment bien l'histoire du foot et se raconter des histoires de foot. Dans quelques années, Guardiola, ça restera
un joueur
du foot anglais.
Donc toujours visible en replay, hein, pour ceux qui l'ont raté.
Merci Nicolas, voilà, merci
c'est ça
Julien.
L'avantage de RMC Sport.
Bravo, t'as Nico, pas fait grand chose.
Julien reste pour nous parler un peu de ce week-end quand même.
Merci Jérôme.
De son week-end de foot anglais et de cup en l'occurrence. Et on accueille Fred Hermel. Salut Fredo.
Hola chicos.
Ça va Fredo.
Feliz año, bonne année à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer.
Bon, Simonet nous rejoint dans quelques instants. Il attend la fin du match de l'Inter à Naples. Hein, s'il n'a pas en stress, quand l'Inter joue, Simonet.
Bah, et puis là, ils reprennent la place de leader. Là, ils mènent.
Mais dis-moi, Gilbert, au fait, oui. T'as vu du beau football ce week-end, non?
Ah oui, je voulais vous raconter un truc. À propos de repartir de derrière. Là. Hmm. Bah, il se trouve que ce week-end, j'étais au match Séville-Bilbao.
T'étais à Séville, toi.
Ouais, Sanchez-Pizjuan, stade mythique,
ah,
bien sûr.
Oui, ah bah oui, ça, c'est la plus grande douleur.
Voilà.
Enfin, en tout cas, pour moi, c'est...
Un stade qui a bien changé, hein, qui a été relifté.
Ah
tout,
oui, bien sûr.
Stade plein, ambiance incroyable. Bon, voilà, le foot espagnol, de toute façon, c'est génial. Et en fait, il m'est arrivé une histoire assez étonnante. Je me suis retrouvé dans une tribune d'abonnés. Donc les abonnés en Espagne, Fred, il y a des papis, il y a des pères de famille. On vient en famille et puis tout le monde se connaît. Donc les mecs qui viennent avec leur petit fauteuil.
C'est normal, c'est la famille.
Les sandwichs dans le papier alu, tu vois. Ils s'échangent les trucs. Enfin bon, on se retrouve au milieu de là. Et Lopetegui, il fait repartir comme en mode Guardiola là. Donc à chaque fois, t'as les deux latéraux, ils sont limite au point de corner. Ouais, donc il y a un 6 mètres pour ton équipe. Ouais. Il s'écarte un maximum. Et là, le gardien de Séville, systématiquement, il va donner un des deux latéraux. Sauf qu'évidemment, les mecs de Bilbao, tout le monde le sait.
Ils sont pas cons, ils y vont.
Donc ils y vont. Et donc, quand il y a un 6 mètres pour Séville, c'est dans l'absolu, si t'as pas des joueurs hyper techniques pour y arriver,
ouais, tu peux pas en sortir. Tu te dis, bah, le gardien est obligé de dégager.
Et il continue quand même à le faire, tout le match. Tu vois, une fois, deux fois. Et en fait, les gens dans les tribunes, ça les rendait fous.
Eh oui.
Parce que les mecs, les abonnés qui sont là, ils disent, mais il nous énerve Lopetegui, mais dégage. J'en ai marre.
Et à l'arrivée, il marque un but quand en faisant ça.
Et à l'arrivée, il y a un partout, c'est un match, parce que Bilbao, ils sont quand même pas trop mal. Mais pour dire que dans les tribunes, quand même, en Espagne, les mecs, le système repartait derrière, je peux dire qu'on voit, ça les gonflait, quoi.
Ils sont cons. Dégage-moi le ballon,
mais oui, parce que, en fait, mais ça te fait trembler comme supporter, c'est normal. Enfin, tu te dis, mais pourquoi ils donnent pas un grand coup de pied dedans? Alors, puisque tu parles de ça, je me souviens d'une conversation que j'avais avec Thibaut Courtois à peu près 3 semaines après le limogeage de Lopetegui. Et il m'avait dit avoir le droit de taper dans le ballon, c'est bien aussi un coup de temps en temps.
Bon, enfin voilà.
Parce qu'il y avait, cette même imposition au gardien, c'est aussi Lopetegui, qu'il fallait relancer, mais vraiment de 12 cm, quoi. T'as pas le droit de faire des longues relances, quoi. Non, mais c'était un beau match en plus, hein. Franchement, moi, j'étais content que tu vois cette rencontre parce que Sanchez-Pizjuan est vraiment l'un des plus beaux stades d'Espagne. Séville fait un très beau jeu. Mais c'est deux oppositions de style, parce que Bilbao, ça reste quand même.
Et finalement, il y avait Jules Koundé titulaire. J'ai complètement oublié Jules Koundé.
Il a joué latéral en plus parce que comme il y avait des il me semble, si je me souviens bien, non, il a joué latéral, non?
Oui, c'est ça.
Première période. Ouais, première période. Ouais.
Alors, on va parler de vos week-ends de foot respectifs, les gars. Mais Fred, t'as eu tes cadeaux?
Ah oui, mais non, mais moi, j'ai pas de cadeaux au roi mage. Parce que je reste très la France. Ah oui, ici, c'est férié aujourd'hui.
Les Espagnols, ils ont leurs cadeaux aujourd'hui.
Ouais. Ce qui, d'un point de vue culturel, est logique. Puisque l'épiphanie, c'est quand même les rois mages qui apportent des cadeaux au petit Jésus. Donc,
oui, le Père Noël, c'est quand même inventé par Coca-Cola, faut le rappeler.
Alors en fait, mais pas l'épiphanie.
Voilà. Ouais,
non, non. Alors, inventé. Alors, expliquez la raison, parce que moi qui suis du Nord.
C'est le rouge et blanc inventé par Coca-Cola.
Voilà, parce que c'est Saint-Nicolas. Parce que moi, oui, excellent. Parce que moi qui suis du Nord, on fêtait Saint-Nicolas aussi, c'est dans le Nord et en Belgique. Et donc, en fait, c'est une évolution de Coca-Cola-esque
de la Saint-Nicolas.
De la Saint-Nicolas qui est fêtée le 6 décembre. Et donc, non, j'ai pas eu de cadeau, mais c'est vrai que.
Ouais.
Non, mais si, parce que c'est. Si ça va un truc avec le foot, justement. Ah ouais, complètement. L'histoire de l'épiphanie. Parce que vous savez qu'il y a la Super Coupe d'Espagne qui se joue à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et en fait, il y a quatre clubs qui sont qualifiés. Le Barça,
je crois que t'avais dit à Djerba.
Non,
il y a un peu plus de Barça, L'Oréal, le Barça, L'Oréal, l'Atlético et Valence. Mmh. Et en fait, le président de la fédération avait consulté les joueurs, les capitaines de chaque équipe en disant bon, si on organise et tout ça, a priori, on va faire ça plutôt Arabie Saoudite, nanana. Et les mecs étaient OK, simplement si ils pouvaient passer le 6, donc l'épiphanie en famille. Voilà, surtout, en fait, ça se fête surtout le 5 au soir. Donc, ils sont 5 au soir, et c'est le 6 au matin où les gamins ouvrent leurs cadeaux. Et donc, par exemple, la Valence et L'Oréal sont partis en fin d'après-midi. Mais voilà, ça faisait partie des négociations en disant, OK, on veut bien jouer cette semaine-là, la coupe, la super coupe, mais il faut qu'on puisse passer, qu'on soit là pour le 6 janvier. Donc, ça fait partie aussi de cette culture-là. Et c'est la raison pour laquelle, puisque vous parliez d'Angleterre, ici, ça me paraît quasiment impossible qu'il y ait un Boxing Day, quoi. On peut pas jouer en Espagne entre Noël et Nouvel An.
Encore un but à Rouen. Christophe Lécuyer, je te coupe, Fred. Christophe.
Et ça fait 3, messieurs. Le calice jusqu'à la ligne pour les Messins. Ils sont en train d'être corrigés ce soir ici sur la pelouse du stade Diochon, un peu à l'instar du deuxième but. Le centre vient de la droite. La reprise, faudra vérifier. Je crois que c'est Nchobi cette fois-ci qui vient marquer, qui vient crucifier l'infortuné portier du FC Metz. Ça fait 3-0. Quel scénario ce soir pour le FC Rouen qui, c'est sûr, maintenant va se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France. Il reste moins de 2 minutes à jouer.
Bon, la question maintenant, Gilbert, c'est savoir si les amateurs vont réussir à marquer un but.
De quoi ? Des amateurs ? Oui, parce qu'ils ne sont pas amateurs, c'est ça que il est bon celui-là, il lâche pas le morceau. Donc 3-0. En tout cas, la Super Coupe, on va en reparler. Et Simonet nous renverra, nous rejoint. Tiens, Simonet.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Il est bien en forme, Simonet. L'Inter a gagné.
Je suis fatigué, mais bon.
T'es fatigué ?
Bah, c'était une longue journée.
Trop de matchs aujourd'hui en Italie.
Je suis rentré à Turin. C'était longue. Je suis sorti de la maison, que la petite dormait, j'y suis rentré, elle dormait déjà. Donc, pour nous dire,
c'était long. Tu vois, l'épiphanie en Italie, c'est pas comme en Espagne, on bosse.
Non.
Enfin, Simonet bosse, en tout cas.
On joue, voilà, mais c'est férié.
Mais c'est férié. C'est férié aussi.
Juste un mot, Julien, sur Arsenal-Leeds. On s'achemine vers une qualif d'Arsenal. Hein. 1-0, on est dans le temps additionnel. Julien ?
Qui a été difficile. Allô ?
Oui, on t'entendait pas. Vas-y.
Pardon, oui, Arsenal effectivement qui va réussir à se sortir de ce guet-apens. Une première mi-temps exceptionnelle de Leeds qui aurait facilement mérité de mener 2-3-0 tellement ils ont été bons dans cette première période. Et après, en seconde période, ils ont baissé de pied physiquement. Arsenal a augmenté son intensité à lui. Et c'est vrai qu'en sur la seconde période, c'est beaucoup mieux de la part d'Arteta et de ses Gunners. Mais en première mi-temps, ils ont énormément souffert contre le Leeds de Bielsa qui a vraiment fait une première période exceptionnelle.
C'est pas la première fois, hein, Julien, cette saison que Leeds a du mal à marquer.
Non, c'est vrai. Après, en championship, ça va encore parce que en seconde période, tu continues à te créer des occasions. Mais là, contre une équipe de première ligue comme Arsenal, qui en plus avait une dynamique assez positive avant la rencontre avec Arteta, etc., d'avoir raté ces occasions-là, c'est ce qui leur a coûté le match. Après, tu savais que ça allait être beaucoup plus difficile après la pause. Et effectivement, la dynamique de la rencontre s'est complètement inversée. Et Arsenal, eux, ont marqué un but avec un peu de réussite, là où Leeds avait raté des énormes occasions face au but.
Dans quelques instants donc, et jusqu'à 23h30, on a le temps de revenir sur vos week-ends de foot respectifs, bien sûr, Italie, Espagne, Angleterre. Polo Breitner, on le salue, il est en hibernation, hein, comme la Bundesliga. Oui. Polo, c'est comme les marmottes.
Ça lui va bien en plus.
Voilà, il va revenir fort dans quelques semaines.
1 janvier.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Kevin Diaz, plus les drôles de l'âme, sauf Polo Breitner, hein, la Bundesliga est en hibernation, je le rappelle. Julien Laurent Sella, Fred Hermel et Simonet Rovera. Simonet, donc tu as eu quasiment une journée entière aujourd'hui, hein, avec la Juve et l'Inter qui ont joué. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme information? Juste avant, c'est fini à Rouen, Christophe Lécuyer.
Ouais, c'est fini à l'instant, messieurs. Il n'y a pas eu photo, clairement, ce soir. Victoire du FC Rouen, pensionnaire de National 2. 3-0 face au FC Metz. Elle est normalement parfaitement comblée. Les trois divisions d'écart. Je vous rappelle les buteurs Dembi, Fataki, Diarra. Rouen qui affrontera Angers en 16e de finale, messieurs.
Merci, bonne soirée.
Quelle claque.
Et ça joue toujours entre Arsenal et Leeds 1-0. Ouais, c'est une belle claque, effectivement. Non, pour,
c'est limite. Alors, même si Kevin va me dire qu'il y a des bons joueurs Rouen, bien sûr, je n'ai rien contre. Mais c'est une faute professionnelle. Y a une équipe
3-0, ça fait beaucoup.
Ah, l'équipe de Ligue 1
perd contre une équipe de ce niveau, c'est une faute professionnelle pour moi. Oui,
non, mais déjà, non, mais 3-0, Daniel. Mais 3-0, et puis il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu une occasion pour Metz.
Il n'y a pas eu une match.
Donc, heureusement, ils ont leur recrue parce que Jimmy Brown derrière et
Pajot au milieu.
Et Pajot, ça fait du bien à Metz.
Jimmy Brown
Non, Jimmy Brown, j'appelle Jimmy Brown parce que c'est le.
Le producteur.
Le producteur, pas de l'after, mais.
Un excellent producteur de RMC Sport.
Ah, excellent, oui.
C'est parti des meilleurs.
De Bricky. Un remplaçant.
Juste en tout
de
Jérôme Thomas.
C'est le remplaçant de. C'est le remplaçant du remplaçant de Jérôme Thomas.
Juste derrière Jérôme Thomas.
Juste derrière.
Wow.
Ah oui, quand même.
Ah, mais Jérôme, là, il va faire. Il va
s'évanouir. Simonet, qu'est-ce qu'on doit retenir de ta journée italienne?
T'es derrière.
Ah, il est.
Top, taisez-vous.
Il est d'une insolence.
Faudrait tenir que Ibra et Soufisfa a sauvé Milan. Ça, c'est la première des choses.
Ça, t'inquiète pas, c'est pas le retenir, on le sait d'avance et ça n'arrivera pas.
Ouais, mais c'est pas pour le niveau d'Ibra, mais c'est vraiment pour le niveau de Milan et de certains de ces joueurs qui n'ont, je pense, aucune raison de. Mais j'étais pas même de s'habiller avec les maillots du Milan. Je pense que l'on n'aurait même pas les droits de l'acheter dans la boutique du Milan. Il y a un niveau de certains joueurs qui c'est.
Elle est énorme, ta punchline.
C'est effrayant. C'est effrayant. Moi, je peur parfois quand je vois les. J'ai vu plusieurs fois Milan au stade cette année et je comprends pas comment. Sur les côtés droits, il y a des joueurs qui sont calabrés et Conti et un c'est pire de l'autre. Et une semaine, il y a un qui joue et la semaine suivant, c'est l'autre qui doit jouer, mais t'es obligé parce que t'en as que deux.
Oh bah le problème du Milan, c'est pas l'arrière droit, excuse-moi.
Non, mais pour dire, c'est pas l'arrière droit, mais il y a l'arrière droit, il y a les défenseurs centrales, il y a les milieux de terrain, et il y a les deux joueurs qui jouent à côté de l'avant-centre, il y a l'avant-centre. On arrive rapidement à faire 7-8 joueurs qui ne sont pas vraiment au niveau. Aujourd'hui, j'ai vu les pires matchs des Souso de l'histoire.
Souso, tu veux que je te dise, Simonet, j'ai regardé le match aussi. Souso, quand Ibra est rentré à la 50e, là, il était focalisé sur Ibra. En fait, il voulait donner le ballon qu'à Ibra. Même quand c'était injouable, il voulait donner le ballon à Ibra.
Donc, il l'a donné mal.
Ah oui, il lui a pas donné un bon ballon. Il
lui a pas joué. C'est terminé minutes. Arsenal, hein. Victoire d'Arsenal 1-0 face à
Mais par contre, pour aller dans le sens du Milan, l'entrée d'Ibra a fait quand même énormément de bien. Dire ça, tu peux reconnaître. Et pourtant, c'est un Ibra à 70%. Hein.
C'est Ibra à 70, je pensais que tu disais à 70 balais. Non, c'est Ibra à soi, même peut-être à 50%. Je te dis que, il a fait 3 entraînements, c'était 3 mois qu'il jouait plus. C'est un joueur qui n'a plus la puissance physique d'une époque.
Ouais, pour
il joue
l'instant.
Encore avec beaucoup d'intelligence. Parce que ses déplacements étaient bons. Il fait les premiers ballons qu'il touche, il fait une passe à Léao qui a une occasion importante qu'il rate. Mais là aussi, c'est vraiment. Milan, c'est catastrophique et Ibra peut aider cette équipe à gagner quelques points en plus. Peut-être arriver à l'Europa League parce que c'est pas très loin. Les classements disent qu'avec 3-4 points.
Ils vont avoir du mal à remonter quand même. Hein. C'est le sixième, c'est Cagliari, ça fait 6 points.
Oui, mais après, il y a la place de la Coupe d'Italie que ça peut être récupéré. Donc, on verra. Milan peut même arriver en Europe, mais les niveaux de cette année, c'est une catastrophe totale. Ça, c'est la première chose que j'ai vue parce que c'était devant mes yeux. En même temps, la Juve gagne face à Cagliari, une des plus belles surprises de cette saison, sixième en Serie A, avec un triplé de Cristiano qui s'est sur 8 buts sur les 6 derniers matchs. Donc, on peut dire que tous les discours qu'on faisait, il est un peu à la fin, il est un peu fatigué, il est pas bon. C'était le début de la saison. Je pense que là, il a vraiment recommencer l'année comme l'avait terminé, c'est-à-dire très très bien avec beaucoup de buts importants. Et après, la troisième chose à dire, pour faire un peu comme les 3 points, c'est que Lukaku Lautaro, ce soir, il arrive à 30 buts cette saison déjà. c'est pour être un duo qui c'est la première saison qu'ils jouent ensemble. Je pense
c'est un super duo. Est-ce que c'est pas la meilleure association d'Italie?
Je pense. Alors aujourd'hui, toutes les grandes équipes d'Europe jouent à trois devant, pratiquement. Il y en a pas qui jouent à deux. Il y en a pas beaucoup qui jouent à deux. Et donc, je vais même dire que c'est les duos meilleurs en Europe, peut-être, parce que il y en a pas beaucoup qui jouent à deux devant, et eux, c'est tout très bien. C'est vraiment complémentaire. Je pourrais pas imaginer les deux joueurs dans un autre système, peut-être à trois, avec un joueur de complément en plus. C'est vraiment Lukaku qui ouvre les espaces parfois et Lautaro va dedans, ou comme ce soir, Lautaro qui fait sortir un défenseur de sa trajectoire pour laisser la place à Lukaku avec son accélération, sa frappe puissante, il fait une frappe, deuxième but, il y a une erreur du gardien, mais il frappe à 111 km à l'heure. C'est quelque chose de, c'est une puissance physique en Italie, ça faisait des années, depuis Ibra, qu'on n'avait plus vu. Donc, je crois que la vraie réussite pour l'ensemble de Conte, il y en a beaucoup, mais la plus grande, on peut dire, c'est d'avoir créé cette duo qui en Italie, oui, c'est les meilleurs et surtout est complémentaire comme j'avais jamais vu. Par contre, sur les attaquants, cette semaine, avec les deux buts d'Immobile à Brescia, Immobile est arrivé à 19 buts en 17 matchs.
Lui aussi, Lazio, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire.
Son troisième à Lazio, là, ce soir. Hein.
Son troisième. Son à 3 points de... 3 points virtuels parce qu'ils ont un match en moins.
Ils ont un match en moins.
Ils ont un match en moins en rapport à Inter et Juventus. Ils ont une vraie chance pour moi de jouer les titres jusqu'à la fin. Parce que l'once titulaire, ou quand même les 11 joueurs de la Lazio, ils ont une qualité qui n'a rien à. Ah,
tu fais du Fred Hermel là.
Non, mais.
Ah, tu nous vends du rêve.
Italie, de plus en plus de gens pensent que la Lazio peut se mêler à la lutte. Ouais.
Wow. Moi,
c'est un honneur de faire du Fred Hermel.
Non, mais oui, c'est parce qu'il fait du Fred Hermel, parce que tous les ans, tu nous vends la même chose, Fred, en Espagne, et puis à l'arrivée.
Je défends Fred. Pendant des années, t'as vendu que le foot espagnol était le meilleur du monde, et il est en raison pendant des années.
Je m'en fous, ça, c'est pas ça.
Et quand je parle des stades espagnols et du jeu espagnol, là, on a le patron, le grand boss, qui a passé le week-end. De la CV, il a vu de ses yeux vus.
Exactement.
Il a touché, il a senti.
Moi, ouais. Bon, Fred, on m'a vendu du rêve, j'ai vécu du rêve.
Le boss, il est cramé.
Merci, Fred.
Il est cramé, le boss.
T'as vite à Madrid, mon petit gars, comme tu veux.
Ça fait des années que je dis que pour moi, Milinkovic-Savic, c'est une des meilleures milieux de terrain en Europe, mais ça n'arrive pas à s'exprimer en Europe, mais un championnat italien, c'est un joueur qui fait énormément la différence. Immobile, lui aussi, c'est un peu cette double visage de la Lazio. En Europe, c'est triste. Cette année, il s'est fait éliminer dans un groupe, vous l'avez vu, il y avait Rennes aussi, sincèrement, il y avait toutes les possibilités de se qualifier. Après les tirages, les directeurs sportifs de la Lazio ont même dit, nous, on a l'ambition de jouer la Ligue des Champions, on est les favoris de ce groupe, on ne doit pas se cacher, ils se font éliminer. Mais c'est le même discours. Immobile n'a jamais marché dans une autre équipe qui ne soit pas une équipe italienne, et avec la sélection est catastrophique. Et en Italie, depuis des années, c'est le meilleur buteur italien. Luis Alberto, c'est un jeu, il a fait déjà 11 passes décisives cette année. C'est les joueurs peut-être moins connus en Europe, mais avec plus de qualité. Et un jour ou l'autre, il va bien être appelé peut-être encore un peu plus en sélection espagnole, parce que c'est une autre découverte incroyable du directeur sportif de la Lazio. Derrière.
Pourquoi ces découvertes-là, on ne les fait pas dans les clubs de Ligue 1? La Lazio n'a pas plus de blé que nos clubs de Ligue 1.
La Lazio, pour moi, est le meilleur directeur sportif italien, sûrement.
L'Albanais, là, Iglitaré,
qui a été le directeur.
Albanais.
Une anecdote, oui,
Albanais,
qui a été recherché.
C'est pour ça qu'il y a le gardien qui est albanais.
Ouais, ça aussi, avec Berisha. Tare est recherché par les autres clubs, et cet été, Milan a tout fait pour faire venir Tare, pour lancer les nouveaux projets. Et vraiment, ils ont tout fait, ils ont fait des offres importantes, mais les présidents de la Lazio, Lotito, n'a jamais accepté de faire partir son atout majeur avec Simone Inzaghi, parce qu'après on parle des joueurs, mais Simone Inzaghi, ça fait des années que...
Simone Inzaghi, il y avait un truc qui était un peu écrit avec lui, hein, quand même, hein, que ça allait marcher comme entraîneur.
Oui, c'est vrai, on disait même aussi ça, on disait aussi de son frère qui malheureusement...
Ah, de son frère, je l'ai jamais entendu. De lui, oui, mais de son frère, je n'avais pas entendu...
Quand il était à la Primavera du Milan, son frère, on disait des très belles choses. Par contre, aujourd'hui, Filippo Inzaghi, le frère di Simone, il est en Serie B avec Benevento, il a terminé...
Il est toujours hors jeu ou il n'est plus hors jeu?
Imagine, aujourd'hui, il est hors jeu parce qu'il a une telle avance sur les autres adversaires. Il a fait la meilleure phase aller de l'histoire. Jamais une équipe à Noël avait autant de points en Serie B. Donc, il est lancé vers la Serie A. Simone, Filippo Inzaghi, ça fait une belle histoire même pour lui.
Dans quelques instants, Simone, on continue
Inzaghi,
le débat.
Simone peut confirmer qu'il était un des plus grands collectionneurs de la Serie A à l'époque. Hein.
Ah oui.
Grand séducteur. Oui, Simone Inzaghi.
Lui et Vieri, c'était presque.
Ah, les vedettes de la télé, ça tombait. Hein.
Ça tombait.
Ah oui.
Et sur Filippo Inzaghi hors jeu, c'est Farus.
D'ailleurs, sa carrière.
J'avais dit, Filippo Inzaghi est né hors jeu.
Simone Inzaghi. Sa carrière, on a souffert à Simone Inzaghi.
Même Filippo,
il était, franchement, il pouvait rivaliser avec l'autre, là. Pas Vieri, tu sais, il y en avait un autre qui, lui, a complètement plombé sa carrière avec les histoires de.
Cassano.
Boriel.
Non, pas Boriel.
Non, je vois de qui Denis veut parler. À latéral, même.
Francesco Coco.
Ouais. Non, pas Coco non plus.
Bon, on a le temps de trouver.
Cassano.
Dans quelques instants, on revient.
Qui c'est qui a dit Cassano?
Avec le drôle de l'âme.
Non, Cassano, c'était.
Bah oui, à tout de suite.
Cassano est
le futur européen en programme encore. Et Julien Cazarca.
Pas sa bouche.
Jusqu'à minuit. L'after foot.